une création.
Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Alors, je suis le père Jean-Emmanuel, Jean-Emmanuel Garraud, donc je suis prêtre du diocèse de Tours, c'est l'église qui est à Tours, et curé de paroisse à l'église Notre-Dame-la-Riche.
Épisode 10, Père Jean-Emmanuel, confession d'un cœur pur.
Le rapport à la solitude. La première chose que Dieu dit dans la Genèse, après avoir, en fait, quand Dieu crée le monde, et à chaque jour, il dit, et Dieu vit que cela était bon. Mais la première note, un peu dissonante dans ce beau projet, en fait, de Dieu, où tout est beau, tout est bon, eh ben, c'est à un moment donné, il dit, c'est un deuxième récit de création, en Genèse chapitre 2, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je ne crois pas en Dieu. Je ne suis pas baptisée. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse. J'ai appris qui était Judas après ma majorité. Je n'ai aucun lien avec la religion, le Seigneur, Dieu, Jésus. La Bible est pour moi un livre avec des histoires qui créent pas mal de problèmes. Des guerres, des amours impossibles, des morts. J'ai fait le signe de croix pour la première fois il y a 6 ans, à l'enterrement de ma grand-mère. Je me suis trompée de sens. Le prêtre, qui n'avait jamais rencontré ma grand-mère, lisait un passage de l'Ancien Testament, où il était question d'une ceinture pourrie. J'étais assise derrière un vieil homme avec une grosseur de la taille d'une petite pomme à la gorge. Quand venait le moment de chanter, je regardais la petite pomme vibrer. C'était terrible. Hier, j'ai rencontré le père Jean-Emmanuel, prêtre du diocèse de Tours. J'échange pour la première fois de ma vie avec un curé. La solitude de celui qui consacre sa vie à Jésus me questionnait. Père Jean-Emmanuel m'accueille avec un grand sourire, au prieuré de Notre-Dame-la-Riche. Il a 48 ans, semble plus jeune. C'est peut-être ses yeux rieurs, ou sa façon de s'émerveiller de tout. Il habite au premier étage. Je vais installer mon matériel dans son salon. Père Jean-Emmanuel s'assoit à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de lui dire qu'il est le premier curé à qui je parle. Je rajoute ne pas être baptisé et ne rien connaître à la religion. Je lui épargne l'enterrement de ma grand-mère. Il continue de sourire.
Moi, cette solitude, comment dire, comme croyant, aussi comme prêtre, je dirais que... Enfin, comme tout homme, on est tous, d'une certaine manière, on est seul... C'est un peu particulier, nous, parce que nous, les prêtres catholiques, c'est sûr qu'on fait le choix du célibat.
Tu as déjà eu une amoureuse avant de devenir prêtre? Est-ce que tu avais déjà eu des rapports avec des femmes? Tu as déjà été amoureux?
Ben, ouais, c'est vrai que je me suis posé la question avant de devenir prêtre. En fait, je suis rentré au séminaire, j'avais 23 ans. Et de fait, j'avais envisagé peut-être de marier avec une personne que j'appréciais beaucoup. Mais
toi, si tu avais le choix, tu te marierais?
Bah, maintenant, moi, je me suis engagé dans cette voie d'être prêtre. Mais déjà, il faudrait trouver la personne.
Oui.
Et puis, je sais pas, après, bon, bah, moi, personnellement, c'est vrai que je pense comme un certain nombre de prêtres, enfin, malgré tout, enfin, la solitude, ça peut être difficile. Moi, je crois que peut-être aussi un des grands sacrifices que j'ai vécu dans ma vie, c'est aussi de ne pas avoir d'enfant, quoi, aussi. Ouais.
Et par exemple, le contact physique, tout ça, ouais. ça c'est pas trop compliqué ? L'intimité, de pas...
Bah, je pense que c'est... Enfin, parce que des fois, on en parle avec des confrères, prêtres aussi. Moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un... un de mes langages, c'est quand même le toucher, quoi. Donc, c'est quand même difficile. Hein. Je ne cache pas que c'est quand même super dur. Hein. Bah oui. C'est pour ça que ça reste quand même un peu une blessure, quand même. Après, c'est sûr. Hein. Enfin... Moi, ouais, dans ma vie, je pense que... Franchement, je pense que, avec le recul, si j'avais eu le choix d'être à la fois prêtre, parce que c'est vraiment un appel dans ma vie, et me marier, je crois que j'aurais pris les deux. Hein. Oui.
T'es triste de ça, de ne pas avoir eu le choix, là ?
En fait, quand on a... Quand on a 20 ans, tout ça, enfin même, j'ai été ordonné prêtre à 28 ans, 29 ans.
Aujourd'hui, t'as quel âge ?
J'en ai 48. Et je pense que bon, quand on a 20 ans, on fonce. Enfin, moi, j'étais tellement, je pense, en effet, épris de Dieu, quoi, qui m'a saisi. Je voulais donner ma vie pour lui. Enfin, c'est très beau aussi. Une sorte de consécration à Dieu, quoi. Et j'aspirais à ça, dans une forme de radicalité, en fait, de vie, quoi. Donc, on est un peu ouais, tout feu, tout flamme quand on est au début. Hein. Et donc, je pense que je ne sais pas si je me suis véritablement... Je pense que je n'ai pas totalement fait peut-être le choix du célibat, en ce sens que... j'ai fait avant tout le choix de Jésus, quoi. On s'engageait pour devenir prêtre en étant voilà, dans le célibat. Donc, je regrette rien. Mais après coup, je dirais, quand on arrive après 20 ans, tout ça, on se dit, tu vois, tes amis qui ont eu des enfants, enfin, c'est pas sans difficulté, hein, parce que je vois bien. Hein. Et c'est là que tu mesures, ouais. Enfin, où tu te dis, finalement, enfin, tu comptes pour qui aussi ? En fait, franchement, enfin, moi, je pense que j'avais un appel aussi... à aimer inconditionnellement, enfin inconditionnellement.
Une femme aussi.
Bah oui, c'est sûr. Oui. Et puis de pouvoir aussi, je dirais, être engendré quoi, en fait, la vie, enfin des enfants, etc. J'aurais aimé. Hein.
Ouais. Tu penses que tu aurais aimé inconditionnellement comme t'aimes Dieu, une femme, tes enfants?
Je crois que oui. Ouais.
Ça doit être dur, alors.
Ah bah oui, c'est difficile. Hein. Ah bah c'est un sacré renoncement. Hein. Bah je sais à quoi je sais le sacrifice que j'ai fait de ma vie, dans ma vie. Hein. Ça, c'est sûr. Bah oui. D'autant plus que je sais avec qui j'aurais pu me marier, quoi.
T'étais vraiment amoureux ?
Ah bah oui. Bah oui.
Bah, raconte, alors. Ah.
Ben, c'est un peu personnel quand même ça, donc je sais pas, c'est mon histoire avec elle aussi.
Mais tu lui as dit, je choisis Jésus, c'est ça que...
Oui. Ben oui. Après, ça m'a un peu... après, moi, je suis rentré au séminaire, et donc...
Vous étiez ensemble depuis longtemps ?
Ah non, mais on n'était pas ensemble, hein. C'était une relation... quand même très à distance, quoi. Enfin, c'était...
Vous étiez déjà embrassé ?
Non. Mais on s'est changé beaucoup de lettres. Bah, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Hein. Enfin, non. On s'est changé et j'ai énormément de lettres.
Et c'est par une lettre que tu lui as appris que tu renonçais à elle pour Dieu ?
Oui. Oui. Je pense que j'avais mûri cette décision. Mais en fait, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, du coup, après... c'est les deux lettres que j'ai gardées, d'ailleurs. quand elle a rencontré en fait celui qui allait devenir son mari. Enfin, j'ai gardé cette lettre en fait. Un peu comme un peu malgré tout un coup de poignard quoi, enfin, je sais pas comment dire. Bah oui. Bah je savais du coup voilà que je et puis du coup j'étais après à leur mariage tout ça bon. Mais
ça devait être dur.
Ouais, alors après c'est dur mais en même temps enfin je sais pas moi j'étais en première année de séminaire. Bah, je continuais le chemin, quoi, en fait. Ouais.
Et si elle n'avait pas rencontré cette personne, tu penses que tu aurais pu revenir à elle ?
Je sais pas comment on peut réécrire l'histoire. Je sais pas.
T'y penses, des fois ?
Ouais. ce qu'aurait pu être ma vie, ouais, j'y pense des fois. Mais encore une fois, je regrette pas tout ce que j'ai vécu, quoi, en fait. Mais ça aurait pu être une autre histoire.
Et si la lettre de rupture s'était perdue ? Si un matin, au lieu de se rendre à l'école de Dieu, il avait pris le train pour la rejoindre. S'il l'avait embrassée. Si ce baiser avait tout changé. Si ce baiser avait écrit une autre histoire. Celle d'un homme qui renonce à devenir prêtre par amour pour une femme. Père Jean-Emmanuel dit qu'il ne regrette pas son choix. Mais certains soirs, quand il pousse la porte de son appartement, qu'il trouve le silence, un frigo vide et un lit froid, qu'il est trop épuisé pour se préparer à dîner, qu'il va se coucher, sans bruit, sans bonne nuit. Il se sent seul au monde. Ces soirs-là, il pense à l'homme qu'il aurait pu être. Le mari, le père de famille. Il pousse la porte et c'est une autre porte, une autre histoire. Il s'endort, bercé par la voix de la femme qu'il aurait aimée, la main posée sur son visage. Je ne vois plus le curé, mais un homme dans toute sa fragilité. Je suis émue. J'ai une multitude de questions que je n'ose pas lui poser. J'aimerais savoir si depuis son entrée dans l'église, Père Jean-Emmanuel est retombé amoureux. S'il est encore vierge. S'il a le droit d'embrasser une femme. S'il l'a déjà fait. Et embrasser ? T'as déjà embrassé une femme, quelqu'un, ou pas?
C'est super intime, ça, comme truc. Eh ben, je peux dire oui.
Oui, tu peux. Ouais.
Oui.
Avant de devenir prêtre?
Oui, avant, oui.
Du coup, tu sais ce que c'est d'embrasser quelqu'un et... Et ça te manque, enfin ça te manque pas ou des fois tu y penses ou...
Bah ouais, j'y pense, ouais, enfin c'est mais non, mais encore une fois c'est comme une forme de bah c'est là peut-être qu'on expérimente le plus la solitude en effet, ouais. Ouais. Mais je crois aussi peut-être il y a bien des formes aussi de. En fait, ce qu'on cherche, en fait, fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est une communion. C'est-à-dire, c'est une forme d'union dans la différence.
Mais la communion du corps, ça, tu.
Ouais. Bah ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'est pas donné. Même si mystiquement, mais c'est pas pareil, hein, parce que franchement, c'est pas du tout. Un jour, j'en parlais avec un couple qui s'occupe de la préparation au mariage, même. Puis je leur disais, bah voilà, c'est sûr qu'un couple, il a vocation de vivre cette communion, un seul cœur, une seule âme, une seule chair. une seule chair. Et je dis, bah, oui, bah, nous, quand on est célibataire, prêtre, bah, ouais, le une seule chair, ça ne se vit pas, en fait. Mais c'est vrai, hein, enfin, je reconnais, hein, c'est quand même... Je pense que... on méconnaît beaucoup, en fait, la vie des prêtres, en fait. Parce que des fois, les gens, ils se représentent des trucs du prêtre, enfin, je sais pas quoi, c'est une sorte de truc, homme à part, ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est des hommes. Enfin, on est tous des hommes, quoi. On est des hommes avec, voilà, avec tout ce que comporte la vie d'un homme. Oui. Après, c'est la question, c'est ce qu'on en fait, quoi, de tout ça, quoi. De nos désirs profonds, de tout ça, de... on fait confiance à Dieu, il nous conduit. Je sais pas.
Il n'y a pas que le choix du célibat qui m'interpelle. Le monde part en vrille. Les guerres se multiplient. J'entends les génocides, j'entends la cruauté des hommes, la planète souffre, les animaux sont massacrés. J'entends tout ça, et je me demande comment croire en un Dieu qu'il tolère. Père Jean-Emmanuel pense qu'il faut garder espoir, même au cœur de l'horreur. Il aborde les abus sexuels au sein de l'Église. Il marque un temps d'effroi. À cet endroit, il souffre, il se sent seul. Cette solitude, il ne l'a pas choisie.
Ce qui me déchire le plus, en fait, par contre, c'est toutes les révélations, tout ce qui s'est passé dans l'Église catholique, enfin, sur d'autres églises aussi, j'en sais rien, mais sur tous les abus, etc. Alors là, ça, c'est... Ça m'a fait quand même très, très, très mal, quoi. Enfin, pour les victimes, pour... Et je suis dans une colère quand même, face d'une certaine manière à certains membres de l'institution qui on n'a pas pris la mesure dès le départ des problèmes, quoi. Non, je suis très très en colère encore. Ouais. C'est le pire, quoi. Ouais, et je pressens que. C'est sûr, je pense qu'on n'est pas au bout et que quand on s'engage dans une institution, ben moi je ne mesurais pas ça avant de rentrer, avant de m'y engager. En fait, c'est quand même vachement dur quand même. Utiliser en fait l'autorité spirituelle qu'on a. L'autorité, c'est bon en ce sens que c'est pour faire grandir, mais quand ça devient une sorte de pouvoir et qu'on manipule les gens, ou je sais pas quoi, c'est intolérable en fait. C'est plus ça en fait. Et là, je sais bien que, malgré tout, Dieu aussi est avec nous, mais et qu'heureusement, il y a des personnes qui se lèvent et qui vont dénoncer les choses parce que sinon, ça n'aurait pas bougé, quoi. C'est quand même une période assez sombre de l'Église, ça. Il y en a eu d'autres à d'autres moments, mais ça c'est vraiment... Ouais, des fois là on se sent seul même par dans l'institution quand même.
Il ne s'attarde pas sur le sujet, trop douloureux, trop sensible. Il revient à Jésus, son regard s'éclaircit. Toutes ces horreurs ne lui enlèvent pas son optimisme, sa foi. Il se remet à sourire. C'est fou de croire aussi fort.
Si je peux me permettre, il y a une image que j'aime beaucoup d'Henri Maldinet, c'est un philosophe, et qui parle de la faille. En fait, il dit, pour un alpiniste, pour réussir à traverser une paroi, il nous faut une faille. Parce que la faille, elle nous donne une prise pour monter, en fait. Et c'est vrai que des fois, on rêve d'un monde, ou même dans notre existence, d'un monde qui serait parfait, quoi. Ben, lisse et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de prise là-dedans. Et on ne peut pas monter. Donc, en fait, heureusement qu'il y a des failles dans notre vie, parce que c'est ce qui nous donne des prises.
Tu penses que ta solitude, c'en est une ?
Oui, je crois. Et donc, peut-être, dans cette solitude, ça peut nous ouvrir à d'autres choses. Mais on ne peut traverser qu'une faille et une paroi, pour avoir fait l'alpinisme un peu, qu'en étant encordé, quoi. Et moi, mon premier de cordée, ça, c'est sûr que c'est Jésus. Hein. Ben, c'est vrai, hein. Il m'a toujours tiré. Hein. Ouais. Même dans mes formes de solitude, même dans finalement dans ce qui peut paraître... parce qu'on a tous, on est tous blessés d'amour, parce que peut-être que l'amour inconditionnel, en plus, il appartient qu'à Dieu, quoi. Enfin, ça c'est sûr de toute manière. Et même nous, même si on essaye de vivre le plus généreusement possible, on est malgré tout, on est limité, quoi. Et donc ça, c'est sûr que je l'ai perçu. Et je l'ai perçu en relisant les événements de ma vie, quoi. Même, je sais pas, mais je dirais même mes désirs les plus profonds d'être père, je sais pas, ou d'être époux, les choses qui étaient des potentialités en moi, en fait. C'est pour ça que je dis, tout n'est pas accompli dans ma vie, en fait. Je sais pas, en fait, comment ça va s'accomplir. Mais je vois que, par certains côtés, ça arrive. Pas comme on avait imaginé, quoi. Mais autrement. En fait, il y a quelque chose qui est donné, quoi. Parce qu'en fait, je suis persuadé que Dieu, il met en nous de tels désirs, quoi. Je vois pas comment il pourrait pas transformer ses désirs en réalité, quoi.
Fin de l'entretien. Le père Jean-Emmanuel m'a prouvé que les curés pouvaient être des hommes comme les autres, avec des regrets, des doutes, des rêves, des déceptions, des colères. Je n'ai pas eu l'histoire d'amour que j'attendais. Dans cette vie, Jean-Emmanuel est un prêtre célibataire. Mais l'amour était présent. Je l'ai entendu dans mon casque, je l'ai constaté dans son regard bienveillant, son rire gêné, son désir d'aider son prochain. Au moment de se quitter, il m'a dit « Que Dieu te bénisse ». J'ai pensé que si tous les curés ressemblaient au Père Jean-Emmanuel, peut-être que je serais croyante, moi aussi. Peut-être que je prendrais plaisir à aller à l'église, que je saurais faire le signe de croix, et que tout ça aurait un sens. Ce qui est certain, c'est que le monde serait meilleur s'il existait plus d'hommes comme lui. Dehors, je prends quelques instants avant de retrouver ma vie, mon monde. Je m'assois sur un banc. Des gens passent devant moi. En chacun, une multitude de possibles. C'est vertigineux. J'entends le clocher de l'église sonner 18 heures. Je ferme les yeux et reste encore un peu, sans bouger, au croisement de toutes ces vies. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Un grand merci au Père Jean-Emmanuel pour sa confiance. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast. Vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue.
Une création
Blast, Blast.